Chapitre 14. Richard claqua des doigts.
« La magie !» s'écria-t-il. « Tout est là. Vous vous souvenez de mon récit au sujet de Callan ? Quand je l'ai rencontrée dans la forêt de Heartland, alors qu'elle cherchait un grand sorcier disparu depuis longtemps.
« Et alors ?» demanda Nietzsche.
En réalité, Callan cherchait Zed, car c'était lui le grand sorcier. Il avait quitté les contrées du milieu avant ma naissance. Darkenral venait de violer ma mère et Zed voulait la conduire en sécurité.
Soupçonneuse, Kara plissa le front.
« Seigneur Ral, ça ressemble à ce que vous dites avoir fait pour votre femme après qu'on l'eût roué de coups. »«
Eh bien, un peu, mais... »«
Ne comprends-tu pas, Richard ?»
intervint Nietzsche.
« Tu prends des bouts d'histoire un peu partout, puis tu les intègres à ton fantasme. Tu ne vois pas le lien entre les deux situations ?» C'est un phénomène très banal lorsqu'on rêve. L'esprit revient à ce qu'il connaît par expérience ou par ouï-dire.
Non, ce n'est pas ça du tout. Si tu m'écoutais au lieu de te lancer dans de grandes interprétations.
Nietzsche se résigna au silence, mais elle croisa les mains dans le dos et pointa le menton comme un professeur intraitable contraint d'affronter un élève obstiné.
Je reconnais qu'il y a des similitudes. Admit Richard mal à l'aise, sous le regard de l'ancienne maîtresse de la mort. Mais ça n'a rien d'étonnant, en fait.
Zed est parti parce qu'il ne supportait plus le conseil, et moi, j'en avais assez de secourir des gens qui préféraient les mensonges de l'ordre. La différence, de taille, est que Zed entendait que les gens assument seuls les conséquences de leurs actes. Ne voulant pas qu'ils viennent l'arracher à son exil, il a lancé une toile de sorcier pour que tout le monde l'oublie.
Richard pensait que son exposé était clair, mais l'air perplexe des deux femmes le détrompa.
Zed a jeté un sort pour qu'on ne se souvienne plus de son nom et de son importance. Ainsi, il espérait avoir la paix. C'est sûrement ce qui est arrivé avec Callan. Quelqu'un l'a enlevé et s'est servi de la magie pour dissimuler ses traces et effacer son souvenir de toutes les mémoires. Voilà pourquoi vous pensez ne pas la connaître.
Kara sembla surprise par ce raisonnement. Elle consulta du regard Nietzsche qui eut un soupir accablé.
« C'est ça !» déclara Richard. « Oui, j'ai trouvé la solution de l'énigme !»«
Richard, » dit Nietzsche, « ta fable n'a aucun rapport avec ce que nous vivons. Même avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de trouver un sens à tes propos. »
Le sourcier en crut de moins en moins ses oreilles. Comment une magicienne compétente pouvait-elle passer à côté d'une chose si simple ?«
Tu te trompes !»
s'écria-t-il. À cause de la magie, tout le monde avait oublié Zed. Le soir de notre rencontre, Callan m'a confié qu'elle était sur la piste d'un vieux sorcier dont on ignorait le nom parce qu'il avait lancé un sort pour le dissimuler. La magie a cette fois servi à faire sombrer dans l'oubli le nom et la personne de Callan.
« Et tu serais la seule exception, »
lança Nietzsche.
« Sur toi, le fameux sort semble ne pas avoir eu beaucoup d'effet. »
Richard s'était préparé à cet argument qu'il savait logique, au moins à un niveau élémentaire.
« Je suis le seul sorcier de guerre. Bref, le seul à maîtriser les deux types de magie. Il paraît logique qu'un sort jeté à de simples mortels ne fonctionne pas sur moi. »«
Tu as bien dit que cette femme, Callan, est partie de chez elle pour retrouver un vieux sorcier. »«
C'est ça, oui. »«
Tu ne vois pas où ça cloche, Richard ?» « Lorsque tu l'as rencontrée, Callan savait qu'elle suivait la piste du grand sorcier, n'est-ce pas ?»«
C'est ça, oui. »«
Ce sort de dissimulation est dangereux à créer, » reprit Nietzsche. « Et il faut tenir compte d'une multitude de difficultés potentielles. À part ça, il n'a rien de remarquable. Il est difficile, certes, mais parfaitement passe-partout. »«
C'est sûrement ce qui est arrivé à Callan, » s'entêta le sorcier. Un des sorciers qui voyage avec la colonne de l'ordre l'a capturé et tente de nous la faire oublier afin que nous ne le dénichions pas.
« Pourquoi quelqu'un se donnerait-il le mal de faire ça ?»
demanda Kara.
« La tuer serait beaucoup plus simple. À quoi bon la capturer et effacer son souvenir de toutes les mémoires ?»«
J'ignore la réponse. Les ravisseurs voulaient peut-être simplement s'enfuir sans risquer d'être suivis, ou ils ont l'intention de séquestrer Callan, puis de l'exhiber devant leur sujet au moment de leur choix, histoire de montrer qu'on ne peut pas s'opposer impunément à eux. Quoi qu'il en soit, ma femme a disparu et je suis le seul à me souvenir d'elle.
j'en déduis qu'on a lancé un sort semblable à celui qu'a jadis utilisé Z.
Nietzsche se pinça l'arête du nez entre le pouce et l'index, un geste qui donna à Richard l'impression d'être stupide, comme si elle lui signifiait que ses âneries lui flanquaient la migraine.
Les gens n'avaient pas oublié le grand sorcier puisqu'ils le cherchaient. Ils ne se rappelaient plus son nom et ne savaient plus à quoi il ressemblait, c'était ça le problème. Et sans ces éléments, ils avaient du mal à le trouver.
Oui, c'est assez bien résumé.
Ne vois-tu pas où ça coince, Richard? Ils connaissaient l'existence du vieux sorcier et devaient garder en mémoire certains de ses exploits. Mais le sortilège les empêchait de l'identifier. Ils se souvenaient de l'homme, pas de son nom. Qui se souvient de ton épouse à part toi? Son nom nous est inconnu et tout le reste avec. Nous ne revoyons aucun moment de notre vie où elle aurait été présente. Nous ne savons rien d'elle, Richard. Elle n'existe dans aucun esprit à part le tien.
Richard avait bien vu la différence, mais il n'était pas disposé à capituler.
Il s'agit peut-être d'un sort plus puissant, ou quelque chose comme ça. Oui, la même magie, mais plus forte et plus efficace.
Nietzsche posa sur l'épaule du sourcier une main compatissante.
Richard, pour quelqu'un qui a grandi comme toi loin de la magie, cette hypothèse peut paraître logique. Elle est très inventive, je te le concède, mais les choses ne fonctionnent pas ainsi dans le monde réel. Pour un profane, ta théorie tient la route. Mais la différence entre les deux sorts que tu évoques revient, eh bien, c'est comme allumer un feu de camp ou tenter de faire briller un second soleil dans le ciel.
Pourquoi ?
S'écria Richard.
Parce que le premier sortilège altère simplement un élément, le souvenir qu'ont les gens du nom d'une personne. Soit dit en passant, ce simple sort exige des pouvoirs et des compétences qui dépassent de loin les possibilités de l'immense majorité des sorciers et des magiciennes. Dans le premier cas de figure, les gens savent qu'ils ont oublié le nom du sorcier. La tâche du sortilège reste donc assez basique, et c'est l'étendue de son champ d'application qui pose un problème. Mais pour notre exemple, ce point est sans importance. Le second sort, lui, altère la réalité dans toutes ses manifestations. Il efface des événements, des traces matérielles, des objets de tout genre. C'est cette diversité qui rend son existence purement et simplement impossible. Pense à toutes les façons dont une personne, et surtout la mère inquisitrice, influence la vie des autres. Par les esprits du bien, Richard, la mère inquisitrice dirige le Conseil des Contrées. Ses décisions affectent tous les royaumes.
Quelle différence ça fait? Zed était le premier sorcier. Lui aussi avait de l'influence sur une multitude de gens.
Certes, mais ils avaient oublié son nom, pas son existence. Imagine ce que serait le résultat si la magie pouvait occulter totalement une personne. Prenons par exemple Faval, le marchand de charbon. N'oublie pas seulement son nom, mais fais comme s'il n'avait jamais foulé cette terre. Raye de ton esprit tout ce qui le concerne, comme nous sommes censés l'avoir fait avec Alan. Qu'arriverait-il si c'était possible? Que penseraient ses enfants, soudain privés depuis toujours de père, et sa femme, qui n'aurait jamais eu de mari? Et pourtant cette famille existerait, tu es bien d'accord là-dessus. La pauvre épouse, s'inventerait-elle un autre mari pour remplir le vide et apaiser ses angoisses? Qu'en diraient ses amis, et comment leurs pensées s'accorderaient-elles aux siennes? Quelles seraient les réactions des gens autour d'elle, sans réalité, pour soutenir leurs réflexions? Que se passerait-il quand ils fabriqueraient de faux souvenirs pour combler les trous dans leur mémoire? Ces illusions ne correspondraient pas les unes aux autres, tu t'en doutes. Mais il resterait les installations qui serviraient à fabriquer le charbon, là non plus tu ne peux pas me contredire. Qu'en ferait la famille de Faval et comment expliquerait-elle leur présence autour de la maison? Qu'arriverait-il dans les fonderies que Faval approvisionnerait en charbon? Que penserait Prisca, par exemple? Croirait-il que des réserves sont apparues par miracle dans son entrepôt? J'ai à peine commencé d'évoquer ce qui se passerait si Faval était visé par ton extravagant sort d'oubli, mais je peux continuer si tu veux. Comment vivraient ses ouvriers? Comment les comités répartiraient-ils le travail? Qu'en serait-il des contrats avec ses fournisseurs de bois? Que deviendraient les documents qu'il a signés et les promesses qu'il a faites? Richard, imagine la confusion que cette disparition provoquerait.
Et nous parlons d'un modeste commerçant qui vit à la lisière de la ville dans une petite maison.
Nietzsche écarta théâtralement les bras.
Alors, quand il s'agit d'une mère inquisitrice?
Désolé, mais je parviens à peine à envisager les conséquences d'un tel bouleversement.
Sa crinière de cheveux blonds ondulant sur ses épaules, l'ancienne maîtresse de la mort, superbe dans sa robe noire, avait tout d'une jeune et jolie femme aux intentions et aux comportements amicaux. Mais en ce moment précis, avec son aura plus brillante que le soleil, elle incarnait aussi l'image même du pouvoir, de l'intelligence et de l'autorité. Une force indomptable et sans reproche, face à laquelle Richard, tout sourcier qu'il fût, se sentait impuissant comme un petit garçon devant sa mère.
Cette cataracte de conséquences explique pourquoi le sort dont tu parles ne peut tout simplement pas exister. Le plus petit acte de la mère inquisitrice serait effacé, et lorsqu'on ferait la somme des suppressions, il faudrait admettre que l'histoire du monde, rien de plus ni de moins, en aurait été radicalement altérée. Pour soutenir ce sort, il faudrait donc mobiliser plus de pouvoir qu'en ont eu les sorciers de tous les temps réunis. Car une telle complexité puiserait en permanence du pouvoir afin de neutraliser ou de corriger les kyrielles de déviation qui ne cesseraient d'apparaître. Le phénomène étant exponentiel, puisque chaque alternative en générerait des dizaines d'autres, le sortilège ne pourrait bientôt plus faire face au désordre qu'il aurait créé. Devenu une coquille vide, il finirait par mourir comme une bougie exposée à un déluge.
Nietzsche approcha de Richard et lui tapota la poitrine d'un index rageur.
Ce tableau ne tient même pas compte des plus évidentes contradictions dont est truffé ton rêve. Dans ton délire, tu as accouché de tout un univers, rien que ça. Tu ne t'es pas contenté de t'inventer une femme, ce qui serait déjà beaucoup, mais tu l'as placée au centre des événements en cours, un conflit qui concerne tout simplement le monde entier. S'il s'était agi d'une fille de ferme que tu aurais été seule à connaître, tes affabulations auraient pu tenir plus ou moins debout. Hélas, tu as opté pour une personne publique, dans un univers onirique, où est le problème? Mais dans le monde réel, choisir une célébrité est une inépuisable source de conflits de cohérence.
Tu es allé plus loin encore, car tu as opté pour la mère inquisitrice,
une femme d'une stature légendaire et d'une importance capitale, mais aussi d'un tel niveau social et géographiquement si distante que ni Cara, ni Victor, ni moi ne pouvons la connaître. Aucun de nous trois n'est originaire des contrées du milieu, et c'est très commode pour toi. Ainsi, il ne nous est pas facile d'opposer des faits à tes constructions imaginaires. Mais prends garde à toi, Richard. Si la distance est un atout pour la crédibilité de ton rêve, il y aura tôt ou tard un retour de bâton. La mère inquisitrice est très largement connue. Bientôt, pour ne pas renoncer à ton rêve, tu devras multiplier les affrontements entre tes fantasmes et la réalité, et tu finiras par perdre la bataille. En mettant la barre trop haut, ton inconscient a condamné ton beau songe à la destruction, sauf si tu bascules dans la folie.
Nietzsche saisit le menton de Richard et le força à la regarder dans les yeux.
Dans ton désarroi, mon pauvre ami, tu as imaginé des choses réconfortantes. Au seuil de la mort, il te fallait un être aimé, quelqu'un qui apaiserait tes angoisses et t'aiderait à te sentir moins seul et moins terrifié. C'est parfaitement compréhensible. Je ne perdrai pas une once de mon respect pour toi à cause de cela. Mais c'est terminé maintenant, et tu dois renoncer à tes illusions. Si tu avais rêvé d'une banale inconnue, il serait beaucoup moins urgent de liquider tes fantasmes, mais à cause de la personnalité de ton épouse, ils sont trop intimement liés au monde réel. Si tu retournes dans les contrées du milieu, ou si tu rencontres des gens qui en viennent, ton rêve sera brutalement confronté à la réalité. C'est une menace aussi redoutable que celle des arbalétriers de l'ordre, plus grave même, parce que cette fois, un carreau te transpercera inévitablement le cœur. Et des épreuves plus terribles encore te guettent peut-être. Imagine que la vraie mère inquisitrice soit morte.
Non, non, elle est vivante.
Seigneur Hal, intervint Kara. Il y a quelques années, votre père a chargé des quatuors d'éliminer toutes les inquisitrices. Les tueurs de Darkenral ont scrupuleusement exécuté ses ordres. Mais ils ont laissé une survivante, Kallan.
Richard, dit gentiment Nietzsche, que se passera-t-il si tu découvres un jour que la mère inquisitrice actuelle est une vieille femme édentée? Je doute qu'une jeune personne ait pu être nommée à ce poste. Imagine que la véritable mère inquisitrice soit toute décrépite, voire morte et enterrée depuis longtemps. Sois franc, Richard. Que ferais-tu si tu recevais un jour un tel choc?
Les lèvres sèches, Richard dut se les humidifier avant de répondre.
Je n'en sais rien.
Enfin, une déclaration sincère, triompha Nietzsche. Elle eut l'ombre d'un sourire, mais se rembrunit aussitôt.
« Je suis morte d'inquiétude pour toi, Richard. Terrifiée à l'idée de ce qui t'arrivera si tu t'accroches à un passé qui n'a jamais existé. Un jour ou l'autre, tu ne pourras plus fuir la réalité, et j'ai peur que ta santé mentale ne résiste pas à ce traumatisme. »
Nietzsche ne va pas croire que...
« Richard, je suis une magicienne. » J'ai fait partie des sœurs de la lumière, puis celle de l'obscurité. En matière de magie, j'en sais plus long que toi. Si je te dis qu'un sortilège pareil est impossible, il faut me croire. Un moribond peut rêver des choses fabuleuses, mais tout s'écroule lorsqu'il revient dans le monde réel. Si ce que tu décris était envisageable, je n'ai même pas dit faisable, les conséquences seraient tout simplement incalculables.
Nietzsche. Je reconnais que tu sais beaucoup de choses, mais tu n'es pas infaillible. Lorsque tu ne peux pas faire quelque chose, ça ne signifie pas que ce soit impossible, mais simplement que ça dépasse tes compétences. Mais tu refuses d'admettre que tu te trompes parfois, comme tout le monde.
Plaquant les poings sur ses hanches, Nietzsche foudroya le sourcier du regard.
Tu crois que j'aime m'opposer à toi sur ce sujet? Tu penses que j'ai plaisir à détruire ton rêve? « As-tu l'impression stupide que me dresser contre toi puisse être autre chose qu'un crève-cœur ?»«
Je ne crois rien du tout !» explosa Richard. « Une chose est sûre. On a réussi à vous faire oublier Kallan. Moi, je sais qu'elle existe, et j'ai l'intention de la trouver. Tant pis si ça te déplaît !»
Des larmes dans ses beaux yeux bleus, Nietzsche tourna le dos au sourcier et jeta un rapide coup d'œil à la statue géante.
« Si j'en avais le pouvoir... » Je ferai en sorte que ton rêve devienne réalité. Tu n'as pas idée de ce que je suis prête à faire pour te rendre heureux.
Richard admira un moment les nuages violets à l'horizon. La nuit tombait sur un monde qui semblait bien trop paisible pour être réel. Les bras croisés, Nietzsche tournait le dos à son amie et se perdait elle aussi dans la contemplation du couchant. Près des deux jeunes gens, Kara tenait en permanence à l'œil les badauds qui allaient et venaient sur l'esplanade.
« Nietzsche,
dit enfin Richard, brisant le silence. « As-tu une autre explication que la théorie du rêve? Existe-t-il une autre cause à ce qui nous arrive? Connais-tu une magie qui pourrait nous aider à reconstituer ce puzzle ?» Le sourcier regarda un moment le dos de son ami, se demandant si elle allait répondre. Les ombres s'allongeaient sur le cadran solaire de bronze qui entourait la magnifique statue. Le jour agonisait, des minutes précieuses s'écoulaient, et demain il serait peut-être déjà trop tard. Nietzsche se retourna très lentement, les yeux ternes comme si son feu intérieur avait été soufflé par une tempête.
« Richard, je suis navré de ne pas pouvoir rendre ton rêve réel. »
Elle écrasa la larme unique qui roulait sur sa joue.
« Pardonne-moi de te trahir ainsi. »
Kara se tourna vers l'ancienne maîtresse de la mort et chercha son regard.
Désormais, nous aurons un point commun,
souffla-t-elle. Richard caressa du bout des doigts l'ourlet de la robe en marbre de bravoure. Le visage fièrement levé de la statue semblait lui aussi privé de sa flamme intérieure. Mais c'était simplement les effets du crépuscule.
Aucune de vous ne me trahit, dit le sorcier. Vous dites ce que vous pensez et vous vous trompez. Kala n'est pas un rêve. Elle est aussi réelle que cette statue sculptée à l'image de son âme.